Et puis pour terminer, je te propose une interview de Cécile Corbel. Cécile Corbel, on la connaît, c'est une grande artiste du Finistère. Et figure-toi qu'elle sera en concert à l'Opérette, un concert qui sera teinté de sonorités japonaises. Puis j'en ai profité aussi pour discuter un petit peu avec elle de ses influences, de ses inspirations. Et tu vas voir, il y a quelques surprises. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Alors vous êtes pontécrucienne, vous êtes harpiste, chanteuse, autrice, compositrice et interprète. Vous êtes connue dans le monde entier, c'est presque inutile de vous présenter. Vous avez sorti deux albums, hein, c'est quasiment ces six derniers mois. Alors il y a Note Song volume 5 et puis en juillet 2023... un album qui s'appelle La fille du Verseau. Et puis encore avant, vous aviez sorti L'enfant du vent. Alors sur ces deux derniers albums, l'illustration de la pochette me rappelle fortement des pochettes de certains groupes de métal. Alors la baleine volante hein, de L'enfant du vent me rappelle From Mars to Cyrus de Gojira. Et La fille du Verseau pourrait parfaitement convenir à un groupe comme Mastodon. Et j'ai cru comprendre que vous aviez grandi avec ce genre musical. C'est vrai ou pas ?
Grandi, je sais pas. Parce que moi, j'ai écouté plein de musique et dans les... moment où moi-même je commençais à me sentir musicienne, c'est vrai que j'écoutais beaucoup de rock progressif et du métal, mais entre autres parce qu'en fait j'écoutais et j'écoute toujours des styles hyper variés. Je peux allumer des radios mainstream et me laisser me porter par des chansons de pop très grand public et apprécier ça, et puis des fois aller vers des musiques plus spé. Mais ce que j'aime moi en tout cas dans le métal, ou plutôt le hard rock on va dire, c'est la richesse d'arrangement et puis le fait qu'on ne s'ennuie jamais avec ces musiques-là. Donc c'est ce qui me plaît le mieux dans ce style musical. Mais oui, c'est un peu vrai. Et puis pour les pochettes, c'est pas voulu forcément, le clin d'œil à Gojira. J'ai découvert après qu'il y avait aussi cette baleine sur un de leurs albums. Oui. Et pour La fille du Verseau, c'est un illustrateur fantasy qui est très connu, qui s'appelle... Jean-Baptiste Monge, et dont le coup de pinceau, le trait, peut aussi coller beaucoup avec tout ce qui est univers, on va dire, métal, symphonique, pagan. C'est compatible.
Alors, c'est un genre qui vous apporte quelque chose encore aujourd'hui dans votre création ?
C'est surtout par rapport à d'autres styles musicaux où on se contente d'aller sur des couplets, refrains en alternance, que dans le rock progressif ou le métal, il y a toujours une construction un peu savante pour qu'on s'ennuie jamais à l'écoute. Et moi, en tant que musicienne, j'ai besoin de ça. Je le fais à mon échelle, dans un style complètement différent, dans ma musique, de ne pas avoir juste bêtement des couplets-refrains qui se répètent et hop, la chanson est finie. J'aime bien un peu faire voyager les gens en les emmenant ailleurs à l'intérieur des chansons, avec que ce soit des accords qui se transforment ou tout d'un coup une nouvelle partie instrumentale qui jaillit. Je trouve que c'est des musiques hyper intéressantes pour ça.
Alors, qu'est-ce qui vous influence aujourd'hui ?
Ce qui m'influence, on va dire les cultures de l'imaginaire, et je mettrai un I majuscule à imaginaire. Ça peut être tout ce qui est légende, conte, mythologie celtique et bretonne, a fortiori, mais pas que. Donc, tout ce qui va pouvoir me faire un peu partir dans une sorte de parenthèse de la vie quotidienne, ça m'intéresse, et c'est ce que j'essaie de créer dans la musique et dans les concerts. D'emmener les gens par la main dans des histoires et dans des mondes qui ne sont pas tout à fait la réalité, mais pendant 1h30, on est ailleurs. C'est ce qui me plaît en général.
Alors si je vous ai parlé de ces deux albums, ce n'est pas pour rien, puisque dans chacun d'entre eux, vous vous rapprochez d'autres artistes, hein, dont Laurent Tixier, qui a écrit et composé l'album La fille du Verseau. Et puis vous avez fait un duo par exemple avec Natacha Saint-Pierre, et puis avec Misaki Iwasa qui mêle le français et le japonais. Et ça c'est super intéressant, puisque quelque part hein, aux alentours de 2010, vous avez composé pour le très grand studio d'animation japonais, le studio Ghibli, pour son œuvre Arrietty. Si le métal a été une source d'inspiration pour vous, qu'en est-il de la culture japonaise ?
Alors, plus particulièrement l'animation japonaise, et puis ensuite le Japon, qui est un pays que j'ai appris à découvrir à partir de 2010, mais l'animation japonaise, ça m'a toujours bercé. Déjà, pour tous les gens qui ont à peu près mon âge, que je dirais pas, parce que voilà, c'est secret, mais on a tous grandi avec la culture japonaise et l'animation japonaise sans le savoir, parce que c'était ce qui était proposé à la télé dans notre enfance. Donc moi, j'avais cette culture visuelle forte, et après, j'ai découvert vraiment les animés avec le studio Ghibli, avec des films comme Akira, et beaucoup aimé. Vraiment, je suis tombée assez vite fan de tout ça. Et donc, travailler ensuite pour le cinéma au Japon et découvrir le Japon en vrai, ça a fait que conforter mon amour pour cette culture-là. Donc, ça fait partie aussi de mes sources d'inspiration. J'ai la chance aussi d'aller depuis quelques années de temps en temps en Asie et je sens des choses qui me touchent particulièrement dans ces pays, dans ces cultures-là. Donc, ça devient aussi des sources d'inspiration potentielles, évidemment. Il n'y a pas de limite à l'imagination, donc il n'y a pas de frontières.
Comment ça s'est passé avec le studio Ghibli ? C'est eux qui vous ont contacté ou c'est vous ?
C'est un peu les deux. Moi je ne les ai pas contactés en disant « Regardez ce que je fais, je veux faire une musique de vos films, jamais j'aurais eu cette idée un peu dingue. » En fait, du fait d'être fan, on fait parfois des gestes naïfs et avec des fleurs dans les yeux. Mais j'avais envoyé, à l'époque j'étais une artiste vraiment pas très connue en France, et puis pas du tout au Japon pour le coup. J'avais sorti un disque en indépendant qui s'appelait Songbook Volume 2. Et je l'envoyais un peu aux amis, à la famille, à des journalistes, des radios comme vous. Et puis on avait eu cette idée avec mon partenaire à la scène et à la ville, qui lui aussi est fan de Studio Ghibli, d'envoyer un CD au studio, mais en guise de cadeau. Comme un geste de fan très naïf, il n'y avait même pas de coordonnées ou d'adresse pour nous répondre. Donc j'ai envoyé ce CD qui a eu un destin tout particulier parce qu'il est arrivé à destination jusque dans les oreilles du producteur en chef et c'est là que la magie opère, c'est que ce qu'il a eu dans les oreilles, ça lui a plu et ça a déclenché l'envie du studio de me chercher, de me retrouver, de me contacter et ça a lancé la création d'une aventure musicale et de la création d'une bande-son pour le film Arrietty qui allait être un an et demi plus tard, le plus gros film de l'année au Japon. Voilà l'aventure. Ça part d'un geste de fan, comme quoi faut être fan dans la vie.
Et vous aviez fait des concerts au Japon avant ça ou pas du tout ?
Non. C'est vraiment grâce à Ghibli et Arrietty que j'ai pu me rendre souvent au Japon et du coup que le public japonais m'a découverte et qu'il y a eu des concerts par la suite.
Et qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
Ah, c'est un changement. Déjà un changement d'échelle parce que c'était une première collaboration pour le cinéma, mais c'était quasiment ce qu'il y a de plus gros dans le cinéma mondial. Donc, tout d'un coup, il y a une espèce de changement d'échelle. Et puis, des gens, de là au Japon, m'ont découvert. Mais même en France, je pense que j'ai été connue plus grâce à ce film. Et puis, même encore aujourd'hui, ça continue de m'apporter des choses un peu merveilleuses. Parce qu'il ne se passe pas une année déjà sans qu'on en parle, et puis sans que j'aille faire des événements dédiés au film. Là encore, le week-end dernier, j'étais à Clermont-Ferrand dans un festival de cinéma. On a joué les chansons du film, on a rencontré le public. Donc, même plus de 10 ans après, ça continue de permettre des rencontres et des moments sympas.
Et comment est perçue la musique bretonne au Japon ? Est-ce que ça s'exporte bien ?
Alors, de mon expérience, quand moi j'y suis allée la première fois et que j'ai pu faire des interviews, les Japonais connaissaient tout ce qui est musique celtique, ils sont assez sensibles à tout ça, ils connaissent bien, mais plutôt côté musique irlandaise ou écossaise, les couleurs un peu folk, mais ils n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait aussi une culture celtique et une musique celtique en Bretagne, et puis ils ne savaient pas très bien où était la Bretagne, parce qu'en France, c'était pas forcément les sites touristiques numéro un. Souvent, ils allaient à Paris, au Mont-Saint-Michel, à Bordeaux, mais la Bretagne, c'était assez flou. Donc, c'était assez rigolo au moment de la promotion de leur raconter un peu ma Bretagne. On a même reçu des équipes de télé en Bretagne pour leur faire une sorte de visite guidée. Il y a eu des émissions. Donc, voilà. Donc, je sais pas où ils en sont aujourd'hui, s'ils connaissent un peu plus la musique bretonne, si c'est le cas, c'est peut-être un tout petit peu grâce à moi et j'en serais très fière.
Ah oui, ça vous pouvez. Alors vous exportez donc un petit peu de chez vous au Japon, mais vous faites aussi l'inverse, puisque vous êtes en concert vendredi soir au Trimaran de l'Opérette pour un voyage musical au Japon. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Mais oui, on va une nouvelle fois tisser des liens entre cet univers celtique, qui est appelé, je pense naturellement par mon instrument, l'art celtique, par ma culture aussi, et puis le Japon avec lequel j'ai tissé tous ces liens. Et donc, l'opérette nous invite pour un concert qui ne va pas être dédié spécialement à Arrietty, mais en tout cas à l'univers japonais que je parsème dans ma musique, et puis mes dernières chansons. Donc ce sera un voyage entre Bretagne, Irlande, Japon, on va se balader pas mal.
D'accord. Alors, une dernière question. Est-ce que c'est vrai que vous avez des projets secrets avec un autre studio d'animation ?
Ah oui, et ils ne sont plus si secrets, alors on peut en parler un petit peu.
Ah bah oui.
Là, pour le coup, on va rester en France, mais si vos auditeurs ont entre 10 et 40 ans, ils connaissent sûrement ce dont je vais leur parler. Il y a une bande dessinée qui est parmi le plus vendu en France depuis 10 ou 15 ans, qui s'appelle Les Légendaires, qui est un peu dans le style manga, mais c'est pas vraiment un manga, c'est du fantastique. Et le long métrage est en train de se créer, lentement, c'est des projets sur la durée aussi, et j'ai la chance de faire en ce moment la musique pour ce film. Donc c'est assez chouette parce que ça me replonge un peu dans ce que j'ai vécu avec le studio Ghibli, d'être dans les coulisses d'un film dès le début de sa création et puis de faire des musiques.
Ben merci beaucoup Cécile.
Ben merci à vous et puis j'espère vous voir nombreux pour tous les auditeurs qui vont nous écouter parler là, vous voir nombreux au concert à l'Opérette ce vendredi 22 mars.